découverte dans cette matinale qui démarre avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bienvenue à toutes et à tous sur Europe 1. Ensemble, on écoute le monde changer. Il est 6h.
On sait comment faire tourner une usine, y compris dans un confinement. Donc il faut que tout le monde soit tourné vers ce redémarrage sanitairement correct et qui permette à l'entreprise de redémarrer.
Le lent et timide retour vers une vie presque normale. Ce sont ces entreprises qui peu à peu reprennent leurs activités dans des conditions, vous l'entendrez, drastiques de sécurité sanitaire. Le retour dans les classes à partir du 11 mai, très loin de faire l'unanimité. Vous entendrez ces parents qui n'entendent pas renvoyer leurs enfants à l'école. Après les annonces, les applications par le gouvernement, lancement d'un plan pour les plus précaires touchés par la crise. Une aide pour les familles modestes, nous appellerons la Fédération des acteurs de la solidarité. Mais aussi une aide pour les étudiants en difficulté. Au quotidien très éprouvant.
Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir jusque-là ou s'il va falloir que je mange plus qu'un jour sur deux.
Dans ce journal, des visites équipées de masques et de blouses pour ses proches de résidents en EHPAD, ces résidents qui resteront confinés après le 11 mai. Face à l'isolement extrême des anciens, certains établissements assouplissent de manière très contrôlée le confinement. Et puis Mathieu, il est temps de faire cesser cette cascade de drames capillaires.
Il a voulu se faire quelque chose dans le style un peu dégradé. Malheureusement, c'était vraiment catastrophique. Donc au final, on a tout enlevé, quoi. Maintenant, j'ai un homme qui est chauve, voilà.
Voilà. Un mois que les coiffeurs sont fermés, des coups de ciseaux, maison parfois malade. Droit. Rassurez-vous, des tutos sont mis en ligne pour nous aider.
Je crains le pire.
Votre invité à 6h40.
Exactement, on va revenir aux questions sanitaires à 6h40 avec Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Patrick Puy, ensuite président de Vivarte, leader textile qui détient la halle, menacée aujourd'hui en grande difficulté avant le coronavirus déjà. Hein. 6h02, vous êtes sur Europe 1. Un très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Notre vie ne reprendra pas un cours normal après le 11 mai prochain, annonce d'un début de déconfinement progressif. Mais d'ici cette date, l'économie va reprendre tout doucement. Après un mois d'arrêt d'activité, l'heure est peu à peu au retour au travail dans certaines entreprises.
Dans ces usines, sur ces chantiers, les conditions de travail n'auront rien à voir avec ce que connaissaient les salariés avant le Covid-19. Comment ces entreprises organisent-elles cette douce reprise? L'objectif de ces patrons, contactés par Aurélien Fleureau, c'est avant tout de rassurer les employés sur les conditions sanitaires.
On a revu les organisations physiques des postes de travail, revu les flux de déplacement des salariés dans les usines, tout ce qui est vestiaire, cantine, etc.
Pierre Boulet est le PDG de Novares, équipementier automobile, 45 usines dans 23 pays. Pour l'heure, seuls les 5 sites de Chine ont repris. En France, une usine devrait rouvrir lundi prochain et pour convaincre les salariés que ce sera sans risque sur le plan sanitaire, le patron s'appuie sur ce qui a été mis en place en Italie, dans l'usine située près de Turin.
On l'a fait en Italie, on a eu 2 semaines de travail pendant le confinement en Italie, on a eu 100% des salariés et on a eu 0% de personnes contaminées. Donc on sait comment faire tourner une usine, y compris dans un confinement. Donc il faut que tout le monde soit tourné vers ce redémarrage sanitairement correct et qui permette à l'entreprise de redémarrer.
Dans le bâtiment, la tendance est aussi à la reprise, comme le souligne Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, au micro de Stéphane Place.
Moi, je ressens vraiment une envie des chefs d'entreprise, c'est normal, ils sont inquiets pour leur outil de travail. Ils se renseignent, savoir comment ils peuvent reprendre, dans quelles conditions. Vous avez vu que des chantiers sont repartis, notamment sur le pont d'Aquitaine, pas n'importe comment, et on est attentifs, et on les encourage à reprendre dans le respect des règles.
Le redémarrage est également bien amorcé chez Michelin, où la direction estime que d'ici la fin avril, plus de la moitié des salariés des sites de production aura repris le travail.
Une entreprise déjà épinglée pour des conditions sanitaires jugées trop légères, Amazon va devoir les améliorer, a tranché hier le tribunal de Nanterre. Sous peine d'amende d'1 million d'euros par jour de retard et par infraction, Amazon doit se limiter à la préparation de produits essentiels, l'alimentaire, l'hygiène et les appareils médicaux.
Êtes-vous prêt à renvoyer vos enfants à l'école, au collège ou même au lycée à partir du 11 mai? Je vous pose sincèrement la question, certains ont des réticences et vous allez peut-être les exprimer au 39-21. Les établissements scolaires rouvriront progressivement, mais depuis cette annonce surprise d'Emmanuel Macron lundi soir, les enseignants et les parents d'élèves s'inquiètent.
N'y a-t-il pas un risque de relancer l'épidémie via les enfants porteurs sains qui pourraient ramener le virus à la maison? Le gouvernement envisage un retour par petits groupes d'élèves. C'est un soulagement pour certains parents, mais d'autres l'affirment. Ils ne renverront pas leurs enfants en classe dans 4 semaines. Élise Dangean pour Europe 1 les a contactés.
Aujourd'hui, moi je l'affirme, mes enfants n'iront pas à l'école le 11 mai.
François est formel, pas question de renvoyer ses deux filles de 4 et 12 ans à l'école où, selon lui, le respect des gestes barrières est tout simplement impossible.
La santé de mes enfants passe avant toute chose et donc je m'adapterai moi avec ma femme pour nous occuper de nos enfants, mais on continuera le cloisonnement avec eux à partir du 11 mai.
Un luxe que toutes les familles ne peuvent pas s'offrir, comme celle de Cindy, maman de deux collégiens. En parallèle de son travail, cette agricultrice doit gérer les devoirs, alors forcément, elle a hâte que l'école reprenne.
Nous, on n'a pas le temps et on n'a même pas la capacité, je pense, à leur expliquer les choses telles qu'elles sont expliquées à l'école. Surtout que les méthodes ont changé et c'est sûr que dans des matières principales telles que le français ou les maths, ils vont avoir des lacunes à la rentrée. S'ils ne reprennent pas l'école, il y aura des lacunes.
Reste à savoir dans quelles conditions peut se faire le retour sur les bancs de l'école. Le ministre de l'Éducation nationale se donne 2 semaines pour préparer un plan de reprise progressif.
Les derniers chiffres de l'épidémie en France, un peu plus de 15 700 morts. Le bilan quotidien d'hier est lourd, 762 décès supplémentaires, 6 730 patients restent en réanimation, un chiffre en baisse depuis près d'une semaine.
Et on compte aussi près de 29 000 personnes sorties guéries des hôpitaux depuis le 1er mars.
Les EHPAD déplorent, eux, 5 600 décès, dont près de 1 500 dans les établissements du Grand Est. Les résidents y sont confinés dans leurs chambres, isolés de leurs proches, les visites sont interdites.
Et ça va continuer, hein. Les aînés doivent rester confinés après le 11 mai. Alors certains établissements brisent un petit peu cet extrême confinement. Exemple à Sillingy, en Haute-Savoie, 80 résidents, des visites exceptionnelles. Virginie Salmen est dans des conditions drastiques de sécurité sanitaire.
Oui, Laurence fait partie des 4 ou 5 familles à avoir eu le droit à l'une de ces visites très encadrées pour remonter, comme elle dit, sa mère âgée de 98 ans avec un début de maladie d'Alzheimer et qui commençait à sombrer.
Elle était tellement contente, elle n'en revenait pas. Elle me disait mon prénom, Laurence, c'est pas vrai Laurence. Elle voulait me faire plaisir parce que je lui avais amené certaines petites choses qu'elle aimait bien. Donc elle essayait de manger, mais elle ne pouvait plus parce qu'elle était vraiment très très faible. J'ai apprécié qui m'appellent eux pour me dire de venir. Au départ, je n'aurais pas osé demander parce que je savais que c'était interdit.
Les familles viennent sur rendez-vous et à des conditions d'hygiène très strictes, nous dit Virginie Pommier, la responsable vie sociale de l'EHPAD.
Le port du masque, le port d'une blouse et puis éventuellement le port de lunettes ou de visière en fonction de la maladie ou la pathologie. On a aménagé une pièce dans l'établissement qui est réservée uniquement à cet effet, désinfectée avant et après chaque visite.
Et de cette façon, Laurence a même pu tenir la main de sa mère et même la masser en se désinfectant les mains avant et après.
Emmanuel Macron l'a annoncé lundi soir, une aide exceptionnelle va être versée aux étudiants les plus précaires et éloignés de leur famille.
Confinés dans une petite chambre universitaire, pour certains c'est le cas de Jessica, contactée pour Europe 1 par Romain Noquet. Cette étudiante en master de droit à Bordeaux raconte son quotidien considérablement alourdi par un confinement encore prolongé.
Une fois que j'ai payé tout simplement mon loyer, concrètement, il me reste 20 euros. Depuis l'annonce du confinement, mon quotidien a totalement changé. Moi, je travaillais avec 3 jobs étudiants. Et là, aujourd'hui, j'en ai plus qu'un seul, qui est un maigre revenu, 100 euros par mois. Donc, tout s'écroule. Au niveau de la nourriture, c'est très simple. Je ne mange que du riz et des pâtes qui me sont livrées par la banque alimentaire au travers d'associations. En général, je ne fais qu'un seul repas par jour. Et là, d'avoir une annonce qui nous dit que ça va être encore prolongé de 28 jours, pour moi, c'est impensable. J'étais à 2 doigts de pleurer parce que je ne sais pas si je vais pouvoir tenir jusque-là ou s'il va falloir que je mange plus qu'un jour sur deux. On se retrouve vraiment seul dans cette situation, se demandant comment je vais faire demain. Mes appels au secours ne répondent pas.
Témoignage recueilli par Romain Noquet. Cette aide aux étudiants en difficulté est présentée ce matin en Conseil des ministres.
Autre aide promise par le président est présentée lors de ce même conseil ce matin, celle pour les familles les plus modestes avec des enfants, mais aussi pour les personnes seules en difficulté. Cette aide est destinée à surmonter les difficultés financières, notamment l'explosion du budget alimentaire. Les enfants ne bénéficiant plus des tarifs adaptés de la cantine. Cette aide devrait concerner environ 4 millions de foyers qui attendent d'en connaître le montant.
Et on retrouve ce matin Florent Guéguin. Bonjour Florent Guéguin.
Bonjour.
On s'est parlé ces derniers jours déjà, vous êtes directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité. Donc on attend des précisions à la mi-journée, plusieurs pistes sont évoquées. On parle d'1 milliard d'euros qui pourrait être consacré à un dispositif, à un équivalent de la prime de Noël en fonction du nombre de personnes par foyer. On va attendre les conclusions, mais est-ce qu'à vos yeux déjà, on a pris la mesure de la situation ?
Oui, très clairement. En tout cas, la décision du président de la République de verser cette aide aux ménages précaires est une bonne décision, est une satisfaction pour les associations de lutte contre l'exclusion, parce que nous avions beaucoup de remontées déjà depuis plusieurs semaines de situations d'urgence sociale tout à fait critiques. Par exemple, des familles, notamment des familles monoparentales, qui ne pouvaient plus bénéficier de la cantine quasi gratuite et donc pour lesquelles il y avait des dépenses alimentaires supérieures, des coûts supplémentaires. Des ménages aussi qui nous disent ça va être très difficile de payer le loyer pour le mois qui vient. Des jeunes, vous l'avez montré dans votre reportage, qui ont du mal à s'alimenter.
Oui, les étudiants.
Parce qu'il y a une perte de travail. Soit aussi parce que les restaurants universitaires ont fermé et donc on voyait finalement, on voit monter derrière la crise sanitaire une crise sociale et une crise du pouvoir d'achat. Donc,
j'allais vous poser la question parce qu'on parle en ce moment tous les jours de crise économique, de l'économie qui est à l'arrêt. Il y a les filières qui sont stratégiques, d'autres qui sont en difficulté. Florent Guéguin, chez les acteurs de la solidarité, vous avez des réunions peut-être à distance en ce moment, vous vous parlez. Est-ce qu'on craint le lendemain? Est-ce qu'on se dit que cette épidémie sanitaire va être suivie d'une épidémie de précarité?
Bien sûr, il y a à la fois des surcoûts pour les ménages les plus pauvres que j'ai essayé de citer. Et puis, vous avez aussi, dans le même temps, des pertes de revenus parce que, évidemment, il y a des personnes qui ne travaillent plus et qui ne sont pas en chômage partiel, donc qui n'ont pas de compensation, qui ont des pertes de revenus sèches. Parfois, d'ailleurs, dans les quartiers populaires, vous avez un certain nombre d'activités économiques, informelles, qui se sont arrêtées et qui ne sont pas compensées par d'autres types de revenus. Donc, la situation sociale pour des millions de ménages, elle est critique. Donc, cette aide, elle est bienvenue. Après, nous sommes vigilants sur les annonces qui seront faites aujourd'hui parce que, évidemment, le détail compte beaucoup dans ce type de mesures. Nous souhaitions, nous, par le biais d'une pétition que nous avons lancée il y a déjà une quinzaine de jours, les associations, une aide de 250 euros par mois et pour une personne seule, qui était la base, qui nous semblait nécessaire pour soutenir le pouvoir d'achat des plus précaires. Et puis nous demandons aussi à ce que finalement les personnes pauvres soient traitées de manière égale. Bien sûr, il faut aider les familles, il faut aussi aider les personnes qui sont seules, les personnes isolées, les adultes.
27% des Français sont confinés seuls. En ce moment, je donnais ce chiffre hier, certains par choix, évidemment, mais pas tous. Et Florent Guéguin, évidemment, on attend le détail, le diable se niche dans les détails. On va questionner Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, précisément sur ce sujet, à 8h15 sur Europe 1, au micro de Sonia Mabrouk. Merci Florent Guéguin, directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité.
Également sur la table du Conseil des ministres aujourd'hui, le projet de loi de finances rectificative, budget qui prend en compte les milliards que va coûter la crise.
Et les prévisions sont sombres. Croissance fixée à moins 8%, déficit public à environ 9% du PIB cette année et une prévision de dette à 115%. On en parle avec Nicolas Barré dans le journal de 7h. Évidemment, ce projet de budget hors norme qui sera présenté vendredi à l'Assemblée.
Après deux jours de relative accalmie, les États-Unis déplorent le plus lourd bilan journalier jamais recensé, plus de 2200 morts supplémentaires et la colère de Donald Trump contre l'Organisation mondiale de la santé.
Le président américain reproche à l'OMS trop de complaisance avec la Chine qui aurait, selon Washington, caché la gravité du virus. Cette nuit, Donald Trump a annoncé que l'Amérique, qui verse à l'organisation 400 millions de dollars par an, ne lui versera plus jusqu'à nouvel ordre sa contribution financière.
Si l'OMS a fait son job et envoyé des experts médicaux en Chine pour étudier objectivement la situation sur le terrain, l'épidémie aurait pu être contenue à sa source avec très peu de morts. Ça aurait sauvé des milliers de vies et évité des dégâts économiques mondiaux.
Les images de l'incendie et de la flèche qui s'effondre avaient sidéré le monde. Il y a tout juste un an, la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris était ravagée par les flammes. Les pompiers avaient lutté toute la nuit et réussi à sauver l'édifice.
Ce soir, 20h, l'un des deux bourdons de la cathédrale, une très grosse cloche retentira pour commémorer ce premier anniversaire. C'était inévitable après qu'Emmanuel Macron a annoncé lundi soir qu'aucun événement public ne pourrait se tenir avant au moins mi-juillet, le report du Tour de France cycliste.
Il devait s'élancer de Nice le 27 juin. Selon le journal Le Dauphiné, la course aurait lieu du 29 août au 20 septembre prochain. Décision des organisateurs attendue dans les prochaines heures. Pour finir, Mathieu, je trahis un secret avec cette question. Comment ça va pour vous ? Capillairement parlant.
Faites comme si vous ne le saviez pas.
Je crois savoir que ça pousse et que, disons-le, c'est parfois n'importe quoi, notamment au réveil. Mais sachez-le, les coiffeurs veulent vous venir en aide, et pas qu'à vous d'ailleurs.
Ah bah
certains de ces coiffeurs proposent des bons conseils en vidéo sur Internet. Théo Manval.
In fine, il faut couper ce qui dépasse. Voilà.
Des mots simples pour des coupes simples. Après un mois confiné, le dessus de nos têtes ne ressemble plus à grand-chose. Alors Eve, coiffeuse dans les Hauts-de-Seine, a lancé une hotline pour aider en vidéo ses clients à s'en sortir.
Je ne savais pas qu'on était à ce point-là pour les hommes, parce que vraiment, c'est ouf, Inès. Moi, je ne vois jamais mes clients dans cet état-là.
Drame capillaire en cascade, résultat 15 appels par jour et des tutos pour y remédier.
Let's go. Alors attention, hein, il est plus fin ici, vous voyez. Juste se dépatouiller pour éviter que les gens se tondent la tête. Pour moi, c'est vraiment l'urgence.
Mais oui, mais trop tard pour le compagnon de Manon, par exemple, visiblement un peu trop pressé.
Et il a voulu se faire quelque chose dans le style un peu dégradé. Malheureusement, ça faisait plus effet coupe au bol. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Donc, au final, on a tout enlevé, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai un homme qui est chauve. Voilà. J'ai beaucoup de mal à chaque fois que je le croise. Je sursaute. Ça me surprend toujours autant.
Allez, il y en a quand même qui réussissent. Quant à moi, après diagnostic d'Ève, notre coiffeuse.
Donc, pouvez-vous, à votre stade, c'est débarrasser un petit peu les côtés. Dessus, ça peut encore attendre.
Ouf, même si d'ici au 11 mai, je crois que je vais pas y couper.
Ah, le bruit d'un rasoir, d'une tondeuse. Ça,
j'ai cru qu'on était chez le dentiste un instant, Jérôme Lacroix. Vous voyez, le rendez-vous chez le coiffeur, il me manque un peu, celui chez le dentiste, un peu moins. Oh, bah, salut les dentistes qui nous écoutent, évidemment, je sais qu'il y en a. Et on les embrasse. Jérôme Lacroix, ça va les cheveux ?
Mais pas trop mal encore.
Ah, ça va, ça tient. On posera la question à François Geffrier peut-être à 6h30, puisqu'on va le retrouver tout à l'heure pour un nouveau journal, bien sûr. Et à la une, les proviseurs qui vont devoir préparer la reprise, oui, école, collège, lycée, le 11 mai. Est-ce qu'on y croit ou pas d'ailleurs ? Je vous pose la question au 39-21. Merci encore, Jérôme Lacroix. Il est 6h17.